Egunon deneri, bonjour à toutes et à tous. C'est à Ongi etori dans ce dernier podcast du groupe citoyen Elgarekin. Du moins le dernier pendant cette campagne. Alors vous le savez à présent, l'association Elgarekin se dirige tout droit vers les prochaines élections municipales, puisqu'elle a décidé de soutenir et de composer autour de la majorité en place une liste qui est menée par l'actuel maire de Rugnes, Philippe Aramendi. Et justement, nous allons vous faire découvrir, à vous les Ourougnards, ou vous donner l'occasion de redécouvrir, car c'est une personne très proche de ses administrés, la tête de liste du groupe citoyen Elgarekin, Philippe Aramendi. Philippe, Egunon.
Egunon.
Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est un peu le grand jour, et qui dit entretien exceptionnel dit dispositif exceptionnel. Pour la première fois, nous avons quitté notre petit foyer d'enregistrement pour venir nous installer chez toi, Philippe. Et comme on pense avoir beaucoup de choses à raconter, on va s'y mettre à deux, Romain et Gounon.
Egunon, Yon. Egunon, Philippe.
Egunon.
Bonjour à tous. Alors Philippe, c'est avec toi que nous avons décidé de clore cette série de podcasts qui aura permis au plus grand nombre d'auditeurs de découvrir la liste Elgarekin. Une belle aventure pour nous, et j'aimerais, avant de commencer, remercier l'homme de l'ombre, celui qui, depuis le début, nous a permis d'avoir un son d'une merveilleuse qualité, des teasers teintés d'humour, et qui effectue un travail de montage extraordinaire, Mickaël Mileschker. Merci beaucoup.
Mileschker, Mickaël.
Lors de cet entretien, Philippe, nous allons commencer par aborder tes souvenirs d'enfance à Rugnes, tes passions, tes rêves de gosse, mais aussi l'accident qui a changé ta vie. Puis nous aborderons ta prise de conscience politique, tes études de droit, ton métier d'avocat et tes engagements associatifs. Ne manquez pas notre jeu habituel, bien sûr. Et puis nous parlerons de ta première expérience en tant que maire de la commune, ton bilan de ce premier mandat, le projet d'Elgarekin pour l'avenir du Rugnes. Et enfin, tu auras l'occasion de t'adresser directement aux Urugnards et de répondre également à tes opposants politiques. Alors c'est parti.
Philippe, tu es l'actuel maire de la commune de Rugnes, tu es né à Saint-Jean-de-Luz, juste à côté, il y a 58 ans, et depuis ce jour, tu vis à Mendichoco. Quels sont tes souvenirs les plus lointains ?
Alors que j'ai passé une enfance très heureuse. Très heureuse. Bon, comme tu l'as dit, je suis né à Saint-Jean-de-Luz parce qu'il fallait aller accoucher à Saint-Jean-de-Luz. Mais 10 jours après, j'étais ici, là où on est aujourd'hui. Et depuis, je vis ici, donc cette ancienne ferme familiale construite par mes grands-parents, qui aujourd'hui a été aménagée, dans laquelle je vis avec ma famille. Et donc, comme vous avez pu le constater, je suis entouré par la nature, pleine de montagnes. Donc, une enfance heureuse que j'ai passée ici. Beaucoup de temps aussi passé avec mon oncle qui avait des brebis. Et en étant enfant, j'adorais m'occuper des brebis avec lui. Donc j'ai gardé vraiment ça marqué en moi.
Il faut dire que tu étais fils unique, chose quand même assez rare à ton époque.
Oui, fils unique, effectivement. Je n'en ai pas souffert. J'avais aussi des cousins-cousines qui habitent pas loin. Donc j'ai pu aussi partager des moments de jeu avec eux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de moments par derrière les brebis, en montagne ou dans les champs. Donc voilà.
Tu es donc allé à l'école Saint-François-Xavier pendant que l'autoroute était en construction. Il n'y avait pas de route jusqu'à la ferme. Nous n'avons que des photos d'époque pour nous l'imaginer, mais c'était comment Rugnes à ce temps-là ?
Alors, Rugnes, déjà, beaucoup moins d'habitants qu'aujourd'hui. Je pense qu'on devait être aux alentours de 4000, 5000 habitants. Moi, j'ai gardé un souvenir de Rugnes de cette époque où il y avait encore beaucoup de solidarité entre les Urugnards. On était dans une ferme, je l'ai dit, et entre fermes, effectivement, il y avait cette entraide, mais pas que. Je pense que voilà, quand il y avait aussi des décès ou des malheurs, beaucoup de gens arrivaient à se réunir. Ouais. Et ça s'est un peu perdu, tout ça, malheureusement, hein, même si ça reste encore ancré dans beaucoup de familles du Rugnes, parce que voilà, il y a des Rugnards de pure souche. Mais moi, j'ai gardé ce souvenir-là de solidarité. Ça, je crois, marquait aussi ma personnalité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin dans cette société, beaucoup, beaucoup plus individualiste.
Alors, autre chose qui t'a peut-être marqué, c'est que tu avais 7 ans à la mort de Franco en 1975. L'Espagne va vivre une époque dite de transition. Beaucoup d'initiatives vont se développer au Pays Basque pour revendiquer plus de liberté. Des groupes armés et paramilitaires vont s'affronter ici même, hein, sur notre territoire. Quels souvenirs gardes-tu de cette époque ?
Alors, à 7 ans, j'étais peut-être pas encore très conscient, hein, de ce qui se passait, de ce que tu racontes là. Mais très très vite, je me suis rendu compte effectivement de ce qui se passait dans ce pays. Bon, j'ai eu la chance de parler euskara toujours ici à la maison, c'est ma langue maternelle et je continue à la pratiquer aujourd'hui dans ma famille. Donc je sentais déjà là qu'il y avait des attaques vis-à-vis de cette langue.
Puis jeune adolescent, tu ressentais quand même peut-être un certain climat de tension au Pays Basque.
Tout à fait, jeune adolescent, je ressentais ce climat. Et effectivement, je crois que ça a forgé assez rapidement aussi mes convictions politiques. J'étais bien évidemment très naturellement déjà attaché à la terre et donc à la langue. Et quand je voyais et je sentais effectivement ce qui se passait à ce moment-là, les attaques qui étaient portées contre notre terre et notre langue, je crois que très très vite, je me suis senti aussi quelque part devoir aussi moi aussi agir de mon côté.
Pour en revenir à ton quotidien, tu nous l'as dit, tu grandis avec ton oncle et tes cousins. Vous faites vos premières bêtises, on y reviendra. Mais surtout, vous jouez de la musique. La musique avait une place primordiale dans ta vie ?
Oui, effectivement. Je me suis très vite intéressé à la musique, puisqu'à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à jouer du tambour, à apprendre tambour pour entrer à la clique du Rugne. J'ai aussi à ce moment-là commencé à jouer de la batterie, à apprendre à jouer de la batterie avec mon cousin. J'avais un cousin qui était batteur, à qui je dois beaucoup d'ailleurs, à qui je suis très reconnaissant de m'avoir appris à jouer de la batterie. Et à ce moment-là, je ne vous cache pas que j'avais un rêve, c'était de devenir batteur professionnel. Je ne voulais faire que ça dans ma vie, jusqu'à effectivement l'âge de 15 ans où j'ai subi cet accident.
On y reviendra. Et t'as joué à la batterie fanfare du Rugne. C'était important ce rassemblement, justement, comme tu disais, avec le village qui est solidaire.
Oui, très important pour moi, non seulement pour la musique, en tout cas surtout quand je jouais tambour et batterie, mais surtout aussi parce qu'on était vraiment un groupe de copains avec des avis et des idées différentes. Hein. Politiquement, on n'était pas du tout, on n'avait pas les mêmes opinions, mais malgré tout, ça ne nous a pas empêché de partager des sacrés moments. On a passé des moments inoubliable de fête dans ce groupe. C'était un groupe qui vivait bien et je pense que ça se ressentait. Je me souviens très bien que quand on partait faire des concours, parce que la clique participait à l'époque à des concours, les autres batteries fanfares nous jalousaient quelque part.
Vous aviez d'excellents résultats d'ailleurs.
On avait d'excellents résultats, mais au-delà des résultats, on montrait qu'on était quand même un groupe de copains qui savaient s'amuser, qui savaient rigoler, qui savaient faire des bêtises aussi, bien évidemment. Et on était très jalousés pour cet esprit de groupe qu'on avait.
Alors tu l'as dit, à 15 ans et quelques mois, tu as eu un accident qui va te laisser une trace indélébile, qui va chambouler ta vie. Tu veux nous raconter cet événement ?
Oui, très simplement, très naturellement, puisque effectivement à 15 ans, 15 ans et demi, j'ai été victime d'un accident de mobylette, pas très loin de chez moi d'ailleurs, un peu plus bas ici. Mmh. Et bon, le comble, c'est que je partais à la messe. Bon, mais c'était comme ça, je partais à la messe et j'ai eu cet accident. J'ai été renversé par une camionnette et donc j'y ai laissé mon bras gauche, en tout cas l'usage de mon bras gauche. J'avais pris aussi un sacré coup sur la tête. Bon, ça, heureusement, ça s'est plutôt bien arrangé, on va dire.
Oui, parce que justement, tu prends conscience que tes rêves quand même sont stoppés, ton rêve de devenir batteur professionnel, peut-être aussi berger comme ton oncle. Comment ça se passe là, à ce moment-là, dans la tête d'un adolescent ?
Bon, un adolescent de 15 ans, quand il a comme rêve de devenir batteur professionnel et quand je me souviendrai toujours de ce moment, lorsque le chirurgien qui m'avait opéré était venu me voir dans la chambre pour me dire qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec un seul bras. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Il m'avait même dit, mais ne t'inquiète pas, jeune homme, on peut faire plein de choses avec un bras. Il m'avait notamment cité, tu pourras conduire un véhicule. Et la première et la seule question d'ailleurs que je lui avais posée, est-ce que je pourrais jouer de la batterie ? Voilà. Et j'avais eu droit à un gros silence. Et donc ça a été pour moi le moment le plus dur. à avaler. J'ai mis beaucoup de temps à avaler cela.
Un deuil à faire.
Un deuil à faire, parce que même après, quand je sortais avec mes copains dans les fêtes, que je voyais des groupes jouer, j'avais un peu de mal à supporter, à rester à les regarder. Voilà, donc ça, c'est vraiment le... Ça a été effectivement le tournant, un tournant dans ma vie, ouais.
Bon, mais la vie continue. Donc après le collège Sainte-Marie, tu es rentré au lycée Saint-Thomas à Saint-Jean. C'est un enseignement dans la tradition catholique. La religion, la foi sont toujours très présentes dans ta vie.
Oui. Pour moi, c'est très, très présent. Voilà, j'ai eu une éducation catholique par mes parents qui sont très croyants. Je le suis aussi. Je ne suis peut-être pas aussi pratiquant qu'aujourd'hui, mais je suis toujours très croyant. Mais la foi que j'aime vivre dans ma langue maternelle, voilà. Je n'arrive pas à vivre cette foi autrement qu'avec l'Euskara. Hein.
D'accord. Mais
c'est pour moi aujourd'hui un appui aussi pour les moments difficiles. Voilà, quand je vais marcher en montagne, puisque c'est par ces moments-là que je prends les bonnes décisions, j'estime en tout cas les décisions importantes de ma vie. C'est là aussi que j'arrive à me ressourcer. Et bon, Dieu n'est pas loin de moi.
Et à la vingtaine, hein, donc en parallèle, tu as quand même une prise de conscience militante. Tu rejoins un peu plus tard Eritarac, l'ancien groupe municipal également. Comment ça se passe?
Ça se passe assez naturellement. Encore une fois, c'est, je crois, un pas supplémentaire dans les convictions politiques que je commençais à me forger à ce moment-là. J'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on subissait ici sur ce territoire. Et il était pour moi aussi quelque part d'un devoir d'apporter ma petite pierre hein, à cette lutte-là, donc en intégrant ce groupe politique pour faire changer les choses et pour, encore une fois, œuvrer dans l'intérêt de notre langue et de cette terre.
Bon, Philippe, avant de poursuivre, tu ne vas pas échapper à notre désormais célèbre et traditionnel jeu, le « tu préfères ». Alors, les règles sont simples, hein. On te donne deux propositions, tu dois en choisir une, et tu peux évidemment te justifier, car choisir, c'est renoncer.
Allez, on commence gentiment par notre incontournable. Plutôt mer ou montagne ?
Montagne.
Et à pied ou à cheval ?
Plutôt à pied, j'ai fait aussi à cheval, mais très peu. Mais j'aime beaucoup à pied, parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure... C'est mon lieu où je me ressource, marcher. J'aime marcher seul.
Il faut dire que là, tu sors
assez solitaire.
Je
n'ai pas besoin de prendre la voiture pour aller à la montagne, j'y suis de suite. Non, pour moi, marcher, c'est vraiment un moment pour moi indispensable. J'ai besoin de ça, sinon je ne me sens pas bien.
Le soir, tu es plutôt pour un film ou un roman ?
Film plutôt, puisque on passe la journée. Bon, déjà, quand j'étais avocat pendant 25 ans et même maintenant en tant que maire, on lit beaucoup la journée. On est constamment sur des documents. Et donc, je cache pas que le soir, j'ai envie de faire autre chose que de lire.
Faut se vider la tête.
Donc, c'est plutôt un film ou un match de rugby. Bon, le mieux pour moi, c'est un match de rugby, franchement, qu'un film.
Mais ça a beaucoup de soirées disponibles. Hein,
ou alors les soirées sont courtes puisque je rentre assez tard et il faut aller dormir parce que souvent le matin il faut se lever tôt et je me lève tôt le matin.
Et oui, il faut recommencer.
Alors musique, plutôt Nico Etchart ou Phil Collins ?
Ah, là le choix est très difficile. Je vais s'il faut donner une préférence, je vais donner à Nico, puisque c'est un chanteur de ce territoire qui a bercé toute ma jeunesse dans toutes les fêtes que j'ai pu faire ici. Mais j'adore aussi Phil Collins, j'adore surtout le groupe Genesis,
oui.
Qui a bercé aussi ma jeunesse. Je continue d'ailleurs aujourd'hui à les écouter. Il n'y a pas plus tard qu'encore la semaine dernière, j'écoutais leur concert à Wembley en 1987.
Ah, oui.
Voilà, bon, c'est...
Il y a une chanson qui te marque ?
Oui, une chanson qui me marque, c'est Mama. Et cette chanson, je l'ai écoutée pour la première fois. Je parlais tout à l'heure que j'avais un cousin qui m'avait appris à jouer de la batterie. Il avait un petit studio chez lui. Et justement, quand j'étais parti prendre quelques cours, il m'avait fait écouter cette chanson. Et c'est resté ancré. Pendant plusieurs années, je l'entendais pas. Et puis ensuite, je l'ai entendu à une occasion. Et voilà, Mama.
Cuisine, plutôt talo gachna ou shingar ?
Préférence gachna, mais j'aime beaucoup aussi le talo shingar. Et puis le talo, oui, pour moi, c'est quelque chose que je mange depuis tout enfant. Donc,
tu en as déjà goûté un qui détrône celui d'Ama ?
Non, Non, jamais. Celui d'Ama est le meilleur. J'ai encore cette chance d'avoir maman qui fait ses talos.
Et elle en fait régulièrement.
Elle en fait régulièrement, oui. J'en mange pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. Et vraiment, un moment dans la soirée pour moi, un talos gâchna avec un verre de vin devant un bon match de rugby, bon, c'est, pour moi, c'est le bonheur et c'est voilà.
Partagé.
Ouais. Un dernier pour la route, plutôt chilindron ou 6 kilos ?
6 kilos. J'aime les 6 kilos, bien grillés. Puis le 6 kilos, voilà, le 6 kilos, c'est aussi un moment de convivialité que tu partages avec d'autres personnes. Donc, 6 kilos.
Très bien. Eh bien, Pilipé, merci de t'être prêté au jeu. On va continuer notre voyage dans le temps. Tu es maintenant un jeune homme et tu pars faire tes études un peu plus loin à Bayonne, puis très loin de ton pays basque. Tu te retrouves à Pau, mais pourquoi le droit ?
Alors pourquoi le droit ? Tout à l'heure, j'ai dit qu'en rentrant à Eritarax, c'était un premier pas. Le droit, ça a été pour moi le second pas. C'est-à-dire qu'en faisant du droit, d'abord, j'étais parti faire du droit, pas forcément pour être avocat. J'étais parti parce que mon père m'avait dit, conseiller, va faire du droit, que tu pourras passer des concours administratifs pour rentrer dans l'administration. Et puis au bout de la deuxième année de droit, j'ai senti ce besoin d'être avocat. Pourquoi ? Parce que voilà, c'était le moment aussi où j'ai parlé tout à l'heure des luttes qui se menaient ici. Et je me suis dit que en étant avocat, je pouvais peut-être aider aussi des personnes qui étaient ici molestées, poursuivies. Et ça a été pour moi aussi la deuxième façon, je dirais, d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour la défense de ce territoire. Parce que ce territoire, à cette époque-là, avait très besoin d'être défendu, sauvegardé surtout. C'est toujours aujourd'hui le cas. Pas dans le même contexte, mais voilà.
Et c'était difficile, parce que Pau, aujourd'hui, ça paraît la porte à côté quand même. À l'époque, ça te paraissait loin ?
Ah oui, pour moi, c'était très loin. C'était le bout du monde. D'abord, j'ai commencé à aller à Bayonne. Il faut dire que je suis resté à Bayonne jusqu'à vraiment le maximum que je pouvais rester.
pour rentrer tous les jours.
Pour rentrer tous les jours à la maison. Et après, bon, j'ai dû partir à Pau, puisque l'école la plus proche d'avocat, c'était Pau. Mais là-bas, c'était pareil. Si j'avais, par exemple, un jour sans cours, je rentrais et puis j'allais repartir après. Oui. Ma montagne me manquait.
Entre-temps, il y a eu les sorcières de Sougaramourdi. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais par là et ce qui t'est arrivé ?
Alors, les sorcières de Sougaramourdi, alors bon, effectivement, on partait avec mes copains. On avait, c'était un pèlerinage le 18 août. C'est le jour de Méchoui, c'est les fêtes de Sougaramourdi, c'est le jour de Méchoui. Et donc, c'était pour nous un pèlerinage. On partait chaque année. Et donc, à 20 ans, ça faisait déjà au moins la quatrième année que j'y allais. Donc, à 20 ans, eh bien, il s'est passé que je suis tombé là-bas sous le charme d'une sorcière, en fait, qui n'était pas Sougaramourdi, qui était de Biriato. Et qui est Mirinchu, voilà mon épouse actuelle. Et donc on a fait connaissance dans les grottes Sougaramourdi.
Mirinchu que l'on salue, car sans elle, nous aurions eu beaucoup moins de détails croustillants pour préparer ce podcast.
Alors justement, avec Mirinchu, vous avez eu 3 filles, et maintenant tu es grand-père, tu fais partie plutôt des papas poules présents, très présents, ou pas vraiment ? Comment tu te définirais en tant qu'Aïta ?
Papa poule, je ne le dirais pas. Par contre, j'ai essayé en tout cas d'être le plus présent possible auprès de mes filles. Ce n'était pas toujours évident, je le sais. Parce que je sais qu'on a besoin de ces moments-là de partage avec les enfants, puisque les enfants, après, très vite, ça part. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai été suffisamment présent à côté d'elles. Je garde que des bons souvenirs de ma présence avec elle. Bon, on en a déjà encore une qui est encore ici, hein, qui va certainement aussi vite nous quitter. Et puis voilà, comme tu le dis, je suis aussi grand-père et je suis grand-père d'une petite fille. Voilà, donc,
Et justement, maintenant que tu es à Hitachi, est-ce que tu trouves que les relations parents-enfants ont évolué, ont changé en 50 ans ? Quel regard tu portes sur ça ?
Oui, probablement, elles ont changé, mais je pense que ce qui est important, c'est de garder quand même les mêmes valeurs. Et je pense avoir inculqué à mes filles des valeurs de solidarité, d'entraide, de collectif. Et je vois quand même aujourd'hui dans leur parcours que elles ont quand même ces valeurs comme boussole aussi. Après, les relations avec les enfants, bien sûr que ça a dû changer. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que la relation grand-père petite fille n'a rien à voir, parce que bon, là, c'est du pur plaisir.
On devient grand-papa poule, c'est sûr. Bon, tu as passé une bonne partie de ta vie à exercer le métier d'avocat, tu nous l'as dit, hein, ça a façonné tes talents d'orateur, c'est indéniable. Et en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté d'autre ?
Ben, ce qui a toujours été pour moi important dans ma vie, et c'est le sens de ma vie, c'est de rendre service aux autres. Donc de rendre service aux autres en étant avocat, je l'ai fait pour bien sûr des cas individuels, chaque cas individuel, et je le fais en politique depuis mon entrée en politique, et là on rend service à l'intérêt général, c'est-à-dire à la collectivité. Donc c'est tout simplement ça, moi je ne vis que pour ça, pour rendre service aux autres, et je pense que aujourd'hui on aurait besoin de plus de personnes qui pensent aux autres qu'à soi-même.
Alors malgré ton métier qui est quand même une passion, on l'entend à tes propos, tu as décidé d'être maire, donc d'abord tu as été élu bien sûr en 2020, mais tu as décidé d'être maire à plein temps. Pourquoi ? Et puis est-ce qu'on ne peut pas exercer un métier, être maire à la fois ? C'est trop compliqué ?
Non, c'est trop compliqué. J'ai essayé de le faire. Les 6 premiers mois de mon mandat, j'ai essayé de mener les deux fronts, mais j'ai vite compris que ça ne serait pas possible et que ce n'était pas non plus salutaire pour ma santé. Donc j'ai décidé de laisser effectivement ma profession d'avocat pour me consacrer pleinement à mon mandat de maire, parce que je pense qu'aujourd'hui, être maire d'une commune comme Urugne, ça nécessite de consacrer vraiment un plein temps.
Et lors de ce premier mandat, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en tant que maire ?
Alors ce qui m'a marqué, et je dirais peut-être l'aspect le plus difficile, et après je parlerai bien sûr des côtés positifs parce qu'il y en a beaucoup. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la difficulté aujourd'hui de relation avec les administrés. Aujourd'hui, je l'ai indiqué, on est malheureusement dans une société très individualiste où chacun ne regarde que ses propres intérêts. Or, le maire et son équipe sont là simplement pour la défense de l'intérêt général. Et donc, bien des fois, vous êtes amené à devoir dire eh bien, non à des administrés. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'aujourd'hui, les administrés ont de plus en plus de mal à comprendre ce non, même si vous arrivez à leur justifier par différents arguments. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a coûté et qui me coûte le plus. Bon, maintenant, au-delà de ça, être maire, encore une fois, et dès lors que vous êtes guidé par l'envie de rendre service aux autres et de servir l'intérêt général, c'est passionnant. C'est passionnant que de mener des politiques publiques qui sont, encore une fois, indispensables pour les administrés, pour la collectivité. Moi, s'il y a une chose de laquelle je suis très fier dans ce mandat, c'est la politique qu'on a menée en matière de souveraineté alimentaire avec la création de cette ferme municipale et surtout de cette cuisine municipale. Voilà.
Oui, c'est de voir des projets qui se réalisent. Quand
exactement,
même.
Quoi de plus beau aujourd'hui que de dire qu'on est en train d'agir, et ça n'est que le début, pour que nos administrés, jeunes, moins jeunes, puissent bénéficier quand même d'une administration, d'une nourriture pardon, saine et de qualité.
Bon Philippe, on va bientôt passer à la dernière partie de ce podcast, mais avant cela, on va te cuisiner encore un peu. On a imaginé une nouvelle séquence, on l'a appelée le SI. On va aller explorer le fond de tes envies. Tu es prêt ?
Oui.
Et si tu devais aller vivre une année quelque part, ce serait où et pourquoi ?
Canada.
Ok, pourquoi ?
Canada, bon, j'adore les grands espaces. Bon, voilà, c'est pas pour rien que j'aime la montagne, mais ces grands espaces enneigés, là, où il n'y a quasiment pas de vie humaine, c'est ce que je vois à la télé, mais c'est vraiment s'il y a une année que j'aimerais passer quelque part, c'est bien au Canada.
On continue. Et si tu pouvais dîner avec n'importe qui, vivant ou mort, ce serait qui et pourquoi ?
Avec mon épouse. J'aime dîner avec mon épouse.
C'est merveilleux. Et si tu pouvais revivre en tant que spectateur un événement de l'histoire, ce serait lequel et pourquoi ?
Un événement de l'histoire J'ai été très marqué par le 8 avril, j'ai oublié l'année, vous m'excuserez, mais le désarmement. Le désarmement à Bayonne. Pour moi, ça a été un moment très fort. Très, très fort. Encore une fois, c'était un passage à une autre voie. Donc, j'aimerais revivre ce moment-là, si je pouvais le revivre, oui.
D'accord.
Et si tu devais intervertir ta vie avec celle d'un animal toute une journée, ce serait lequel et pourquoi ?
Ah, là, c'est compliqué.
Pour une journée.
Ouais, pour une journée. Pour une journée, j'aimerais bien un chevreuil.
Et pourquoi pas ?
Chevreuil, parce que j'en vois souvent à la montagne. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est l'expression de la liberté. Parce que. Voilà, quand ils vous voient, ils vous sentent, ça part de suite, ça court. Et c'est, pour moi, c'est la liberté, ça, c'est de courir en montagne, voilà, chevreuil.
Allez, un dernier. Et si tu pouvais changer une chose à Urune d'un coup de baguette magique, ce serait quoi ?
Ben, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas très original, mais si je pouvais rendre tous les gens soucieux de l'intérêt collectif... Voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment changer d'un coup de baguette magique parce que franchement, je pense que si on pouvait le faire, notre vie serait super.
C'est pas original, mais c'est un beau message.
Alors, pour cette dernière partie de notre entretien, on va bien sûr discuter des prochaines élections municipales qui arrivent dans quelques jours. Et nous voulons pour cela te donner l'occasion de t'adresser aux Ourougnards. Que dirais-tu à une jeune ou un jeune Ourougnard pour le convaincre de voter pour Elgar Ekin ?
Alors, en votant pour Elgar Ekin, les jeunes pourront bénéficier déjà, surtout, je dirais, de logements. De logements dont ils ont aujourd'hui sacrément besoin, mais pas de n'importe quel logement, de logements durables, hein, puisqu'on a aujourd'hui des enjeux du changement climatique qui sont là et on ne peut plus construire comme il y a 30 ans. Donc, des logements dans lesquels ils n'auront pas de consommation d'énergie débordante et des logements, encore une fois, où il sera agréable de vivre. Je pense que le second message que j'aimerais passer aux jeunes, c'est qu'ils auront aussi la possibilité d'exprimer leurs opinions et leurs envies. Puisque nous avons le souhait de créer un conseil municipal des jeunes, comme nous avons déjà créé un conseil municipal des enfants. Et je pense qu'il est important que les jeunes puissent aussi s'exprimer sur les sujets qui les concernent directement.
Que dirais-tu à présent à des jeunes parents qui vivent à Urugne pour les convaincre de voter pour toi ?
En votant pour Elgar Ekin, ils pourront alors d'abord bénéficier des services dispensés par le relais petite enfance intercommunal que nous avons créé avec Biriatou et Andai. Ils pourront ensuite également, enfin leurs enfants pourront surtout bénéficier d'une nourriture saine et de qualité dans les cantines de nos écoles. Et enfin, je dirais que leurs enfants pourront également bénéficier de services adaptés en fonction de l'âge au sein de notre centre de loisirs.
Que dirais-tu à des Ourougnards maintenant qui sont depuis un moment dans la vie active et qui connaissent bien leur ville ?
Ce que je dirais aux Ourougnards qui connaissent comme moi bien cette commune d'Urugne, c'est qu'en votant Elgar Ekin, on fera en sorte de préserver l'âme et les racines de cette commune qui a bien évidemment évolué hein, aujourd'hui avec beaucoup plus d'habitants, mais on la préservera pour qu'elle reste ce lieu où il fait bon vivre, préserver nos espaces naturels et agricoles qui nous permettra justement de nourrir sainement nos administrés. Donc voilà, garder cet esprit du Rhône que l'on a connu.
Et enfin, Philippe, que dirais-tu à une personne à la retraite et qui est inquiète pour son quotidien, mais aussi pour l'avenir de ses petits-enfants ?
Alors, en votant Elgar Ekin, on apportera déjà une aide importante pour qu'elle reste à domicile le plus longtemps possible. Aujourd'hui, grâce à différents services, je pense notamment à Gauchotoki que l'on a mis en place, mais bien d'autres services aussi qui nous permettent voilà, de les sortir, de les socialiser, de les intégrer dans la vie sociale. Et je pense que il nous faut aussi créer ce conseil. On a parlé des conseils des jeunes. Il nous faut aussi créer ce conseil de nos anciens, puisque il faut les intégrer dans les sujets de la cité. Ça, c'est très, très important. Et dès lors que elle ne souhaiterait plus rester à domicile ou elle ne pourrait plus, il nous faut à ce moment-là leur réserver des habitats inclusifs et partagés, hein, c'est-à-dire des habitats, des lieux où ils ont leur, leur petit coin de vie à mener, mais avec ensuite la possibilité de partager aussi des moments communs dans des salles communes, etc. Et c'est ce que nous souhaitons faire dans nos projets de construction de logements.
Et enfin, un dernier mot quand même sur cette campagne qui se déroule dans un climat assez sain, même si quelques attaques ont pu être assénées par des médias marginaux. Tes opposants mènent leur campagne de manière parfois mensongère ou du moins démagogique. Toi-même, tu as été à leur place, c'est-à-dire dans l'opposition. Alors c'est quoi ? C'est l'envie de faire dans la facilité, d'essayer de convaincre de cette manière ou c'est juste un manque de projet ?
Je pense que c'est une posture de facilité, hein, mais même quand on adopte cette posture, et j'ai été dans l'opposition, il faut quand même veiller à ne pas être dans le mensonge justement et dans la démagogie. Alors, je ne suis pas pour ma part dans les réseaux sociaux et je ne le serai jamais parce que je considère ça un peu comme le média des lâches. Mais bien évidemment, des choses me sont remontées. Et ces choses-là, c'est très facile de les dire via les réseaux sociaux quand il n'y a pas de, de personne en face pour répondre. Alors, je vais citer quand même deux exemples. J'entends depuis quelques jours ce discours lancinant qui est de dire que nous avons dégradé nos comptes de la commune, que nous sommes dans une situation catastrophique. Nous n'avons rien dégradé du tout. Nous avons simplement investi. Pendant 6 ans, nous avons fait des investissements. Puisque notre boussole pour gérer une commune, ce n'est pas effectivement de lever l'impôt pour ensuite le mettre à la banque. Nous, notre gestion, c'est de lever l'impôt pour ensuite rendre des services aux administrés. Et donc, c'est les investissements que nous avons faits. Les investissements, bien sûr, nécessitent aussi des emprunts. Donc, quand certains parlent d'endettement, nous parlons d'investissement et surtout de services apportés à la population. Et sur le même registre, j'entends aussi effectivement que nous avons beaucoup embauché. Mmh. Effectivement, nous avons embauché 40 agents durant ces 6 ans de mandat. Mmh. Mais pour chaque agent embauché, il y a un service rendu à la population. Je prends un exemple. Nous avons embauché une personne pour ouvrir un service de réalisation des cartes nationales d'identité. Voilà. Voilà le service vraiment de proximité. Nous avons embauché une équipe milieu naturel pour préserver nos montagnes, etc. Nous avons embauché un chef ou une chef de projet urbanistique pour mener ces projets de logement qui seront indispensables aux Urugnards. Voilà. Donc, en face de chaque agent embauché, il y a un service rendu. Et c'est ça la question, la gestion d'une collectivité publique. On ne gère pas une collectivité publique comme une entreprise avec des notions de rentabilité. J'entends souvent ce mot dans la bouche de mes opposants, rentabilité. Mais non, nous sommes là pour rendre un service public. Un service public n'a pas à être rentable.
Philippe, un grand merci. Miloš Karajnic, pour ce moment passé ensemble. Merci d'avoir joué le jeu et merci d'avoir ouvert la porte de ta maison pour nous permettre de dévoiler un peu de ton intimité aux Urugnards.
Miloš Karajnic
à vous.
Miloš Karajnic Romain, Miloš Karajnic Mickaël. Quant à nous, c'était notre dernière interview avant le premier tour des élections municipales. Vous pouvez retrouver la totalité de nos podcasts, mais aussi le programme d'Elgarekin sur le site internet elgarekinuruna2026.eu. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter dimanche prochain. Adios.